Well, you go good. Go good. Vous me chantez, vous parlez du beau jour. Bonjour, Gagod. Bonjour.
Bonjour et bienvenue dans Ma langue maternelle n'est pas la langue de ma mère, le podcast qui célèbre la diversité linguistique et les histoires langagières.
Ma langue maternelle n'est pas la langue de ma mère. Alors, en japonais, ça pourrait donner Watashi no bokokugo wa haha no kotoba dewa nai. Ça se traduit assez bien, c'est-à-dire mot à mot, quoi. Donc, bokokugo, c'est la langue maternelle. Haha, c'est donc ma mère. Et voilà, et kotoba, c'est les mots, la langue. Awel wan ananin worge awel wan nina. La langue de ma mère n'est pas la mienne. C'est ça que j'ai dit en tamashek. Et c'est cette vie un peu entre trois continents, donc l'Afrique, l'Europe et le Japon, qui va faire que j'arrive pas bien à perfectionner. Parce que, par exemple, quand je reviens en France, il y a un switch qui se fait. Et d'ailleurs, en France, je parle en français avec ma mère, beaucoup plus. Et c'est complètement naturel, hein, ça, c'est comme ça. Tu vois, c'est comme si ben, je me dédouble, quoi. Après, je dois me redédoubler aussi quand je retourne au Sahara, je suis encore une autre, je pense.
Je m'appelle Alice Magdelaine. Selon moi, toutes les langues sont dignes d'être transmises, enseignées, apprises, parlées, lues, écrites. Mais choisit-on sa langue, celle que l'on transmet à ses enfants, celle qui résonne, celle qui fait sens? Dans ce podcast, je cherche à saisir le lien intime, à dévoiler le capital affectif que les langues recèlent. Chaque épisode est une rencontre. J'ai rencontré Alissa en Guyane, au Festival des musiques transamazoniennes. Elle arrivait directement du Japon. Je l'ai retrouvée quelques années plus tard à Paris, à l'occasion de la diffusion de son documentaire « Caravan to the Future » qui suit le périple des caravaniers Touaregs transportant le sel du Niger au Nigeria. C'est sur son répondeur que je l'ai entendu parler japonais et tamashek pour la première fois. Alissa évoque son lien complexe au japonais, la langue de sa mère, et sa découverte des Touaregs et de leur langue, le tamashek.
Alors moi je suis née en 1970, je suis née à Paris, et après j'ai beaucoup déménagé, on a une vie de famille un peu mouvementée. Jusqu'à l'âge d'à peu près 8 ans, j'étais, disons, en Europe. À 8 ans, on a déménagé au Panama. Ensuite, on est revenu vers la France. Et à l'âge de 12 ans, je suis allée habiter à Tokyo.
Quelle langue as-tu entendue dans ton enfance et quelles sont tes langues familiales?
Ma langue familiale, ça a toujours été le français. Jusqu'à mon âge adulte avancé, on a toujours parlé que français à la maison. Mon père est français, ma mère est japonaise. Ma grand-mère est d'origine arménienne, mais bon, elle ne parle pas la langue. Donc, oui, c'est exclusivement le français.
Donc, quand t'es arrivée au Japon à 12 ans, ta mère ne t'avait jamais parlé en japonais?
Ben oui, on peut dire ça comme ça. J'avais bien sûr déjà entendu le japonais, parce qu'on passait nos vacances d'été souvent au Japon avec mon frère, ma mère. On allait chez ma grand-mère, mes grands-parents japonais. Et là, j'avais des petites cousines, donc on commençait un peu à parler japonais. Mais bon, les vacances d'été, c'est quoi? C'est un mois maximum. Et après, on rentrait en France en général. Donc, mon père ne parlait pas japonais non plus, ça c'est sûr. Il a appris le chinois par la suite. Donc, on avait toutes sortes de langues, mais l'anglais aussi, que j'ai parlé assez jeune, finalement, parce que mon père était un grand voyageur et on partait avec lui en voyage vadrouiller dans des pays impossibles. Et l'anglais était souvent la langue qu'on devait utiliser, donc je l'ai appris beaucoup plus jeune que le japonais.
Finalement, cette arrivée à 12 ans au Japon, est-ce que tu peux nous dire ce que tu as ressenti ?
C'était une situation très, très compliquée. Bon, déjà, 12 ans, c'est pas un âge facile, en tout cas pour moi. Je n'avais absolument pas envie de déménager nulle part parce que j'avais une bande d'amis pour la première fois. Parce que comme on n'arrêtait pas de déménager, je n'avais pas pu faire des amis avant. Donc, il y avait tout ce contexte-là. Comment dire? Je commençais enfin à me stabiliser, en fait, à avoir une vie normale, en fait. Parce qu'à cet âge-là, on n'a pas du tout envie d'avoir une vie anormale. Après, il y avait l'arrachement avec mes grands-parents, avec qui j'étais extrêmement proche. Après, il y avait le divorce de mes parents aussi. Donc, on était vraiment dans un grand séisme dans la famille. Et au lieu que je ressente le fait venu au Japon comme une chance, c'était pour moi une grande malchance déjà. Et alors là, le facteur évidemment qu'elle n'aurait pas pu prévoir, c'est ce choc culturel, linguistique, identitaire. Voilà, je découvre en 1982 que je suis à moitié japonaise et qu'en fait, je comprends rien. Voilà. Et ça, c'était vraiment un choc. Et pour la première fois de ma vie, je ressens un complexe parce que je ne parle pas japonais. Je suis dans un lycée franco-japonais, le lycée franco-japonais de Tokyo à l'époque. Et dans ma classe, il y a autant des Français que des franco-japonais comme moi. Ils sont tous bilingues. Et moi, déjà, je suis complètement larguée. Je suis la seule franco-japonaise qui ne parle pas japonais. Et au lieu de me dire « bon, je vais apprendre », non, c'est tout le contraire qui s'est passé. Alors, il y avait aussi la complication de la relation avec ma mère, que j'ai commencé à lui en vouloir de ne pas m'avoir appris plus tôt. En tout cas, on ne s'entendait pas. Voilà. Donc, mon frère est beaucoup plus soft. Hein. C'est intéressant parce que mon frère a 2 ans de plus que moi. Il a le même parcours. On a voyagé ensemble avec mon père. Enfin, on a fait tout ensemble. Et lui, c'est encore une autre histoire, voilà, par rapport aux Japonais et tout. C'est vraiment moi qui va mettre une barrière. Donc, quand ma mère commence à me parler japonais à la maison, chez ma grand-mère. Alors, ma grand-mère parle aussi anglais, ce qui est assez exceptionnel, du fait de son éducation catholique, qu'elle a appris l'anglais. Bon, et c'est vrai qu'on est dans une famille de lettrés. Mon grand-père est professeur dans une éminente université, il est juriste, etc. Bon, on est dans le milieu universitaire. Mais bon, pour en revenir au japonais, donc je pense que ma grand-mère aussi est choquée parce qu'elle voit que je ne parle pas japonais. Enfin, il y a tout un tas d'éléments comme ça. Et quand ma mère, donc, commence à me parler japonais, mais du plus naturellement qu'il soit, maintenant, on est au Japon, on va te parler japonais, et je réponds en français. J'ai vraiment la réaction de rejet, non seulement la langue japonaise, ma mère, qui est japonaise, et en fait, tout le Japon. En gros, c'est ça. Donc, pendant 4 ans, on va rester 4 ans à Tokyo, je ne vais pratiquement pas prononcer un mot de japonais. Et on est dans un milieu français aussi à l'école, donc comment aussi bien apprendre la langue dans ce contexte-là? C'est extrêmement difficile.
Donc, ça veut dire que tu parles avec tes grands-parents en anglais?
C'est ça qui va se passer. Alors, mon grand-père est mort déjà à l'époque, donc je suis avec ma grand-mère. Elle me parle en anglais, mais elle essaye aussi de me parler en japonais. Et avec ma grand-mère, je parle un peu japonais, parce qu'on n'a pas la même relation qu'avec ma mère. Quand ma mère me parle en japonais, et que je peux répondre que mal, puisque je parle mal japonais, je me sens rabaissée. Avec ma grand-mère, on n'a pas cette relation. Je me rappelle, on jouait à des jeux traditionnels. Et oui, je parlais japonais. Forcément, j'ai appris un peu japonais malgré moi, parce que je commence aussi... Alors ça aussi, ça me fait vraiment rire moi-même quand j'y repense. C'est que je me découvre un amour pour la chanson japonaise. Donc du coup, je me rappelle, il y avait un magasin à l'époque qui louait des vinyles. Et je louais des disques. C'était à l'époque Mazda Seiko, surtout que j'adorais. Et il y avait, je ne sais plus, des chanteuses comme Nakamura. Moi, je ne me rappelle plus bien des prénoms, mais c'était toute cette mouvance quoi, des années 80. Et donc, je mets ça dans le petit vestibule que je me rappelle qu'il y avait à la maison, en face de l'entrée, là, on se déchausse. Et il y avait une petite salle pour les invités, comme il y en a toujours dans les maisons japonaises. On sert le thé et tout. Et il y avait un tourne-disque, ça paraît tellement vieux comme mot. Et donc, avec mon tourne-disque, avec mes disques, je m'enferme dans cette pièce et je chante. Et je pense que ça a beaucoup, beaucoup contribué à ma progression quand même du japonais. Et ça se fait complètement, presque en secret. Hein. Je mets mon casque, je chante, je connais toutes les chansons par cœur et j'adore ça. Voilà. Donc, au fond de moi, oui, il y a quelque chose qui se réveille, de japonais, de... Et c'est... Je lutte, voilà. Parce que je vois que la société japonaise aussi ne me plaît pas du tout. Hein. Il y a un truc en moi, parce que je suis quand même de culture évidemment française, alors j'ai un esprit très indépendant, individualiste, voilà. Et en même temps, je découvre des choses merveilleuses. Alors évidemment, les dessins animés, surtout la chanson et évidemment les japonais. Que quand même je côtoie de temps en temps avec certains amis de ma mère. Je me rappelle, je suis très émue par leur gentillesse et leur politesse et leur... leur bienveillance. Ça me touche profondément, je dis, c'est vraiment un peuple incroyable.
Natsukashi hitomi ga wa zutto mae ni wasurete ita demo anata wo mita toki ana ni
Ouais, c'est Eiko Matsuda, une chanson que j'ai chantée dans les années 80. Pour moi, c'est des chansons évidemment qui te rappellent une époque de ta vie, mais c'est bien plus que ça, puisque c'était les premiers balbutiements japonais pour moi. C'était ça, quoi. Bon, c'est une chanson d'amour qui parle de Natsukashi. Alors, c'est un très joli mot en japonais qui exprime la nostalgie. Je sais pas comment on pourrait le traduire en français. Tes yeux me rendent nostalgique, ça fait pas très joli, mais enfin. Natsukashi, c'est tout ce qui a un rapport avec le souvenir, la nostalgie. Et c'est la souffle en tamashek. C'est marrant parce que je pourrais traduire Natsukashi, enfin presque par un mot tamashek plus proche que le français, quoi. Tu vois, des fois les langues, ça fait ça. Et pareil, comme tu viens de dire, Sodad.
Tu reviens en France et tu fais des études de japonais.
Bah déjà, je reviens en France, je finis ma scolarité, je passe le bac. Je suis littéralement amoureuse de la musique à l'époque, vraiment. Alors là, j'écoute toutes les musiques, c'est ma passion. Les rapports avec ma mère vont un peu mieux. Je retrouve mes grands-parents et tout, cette stabilité qui me manquait familiale. Mon père est toujours en Asie. Et là, je ne sais plus à quel moment, je me dis, bon, bah, de toute façon, il faut bien que je m'inscrive quand même quelque part. Je vais m'inscrire en fac de japonais. Choisis la solution la plus facile, parce que j'ai quand même de l'avance. Il y avait des cours de japonais au lycée franco-japonais. C'est pas vraiment très poussé, mais en même temps, j'ai quand même les bases. Et donc, ça me permet de rien foutre à l'université pendant au moins 1 ou 2 ans. Il y a 3 systèmes dans l'écriture japonaise. Il y a les idéogrammes, donc kanji chinois, et il y a le katakana et le hiragana, qui sont 2 alphabets japonais, dont le katakana qui est utilisé pour les mots étrangers, comme... Kohi, qui est le café, il y a plein de mots japonais comme ça, alors qui s'écrivent en katakana. Mon propre prénom, d'ailleurs, Alissa, est écrit en katakana, parce que c'est ma mère qui a inventé ce prénom. Elle a pensé évidemment à un prénom qui est facilement prononçable en japonais et qui s'écrit facilement. Et comme c'est un prénom qu'elle suppose être étranger, il est écrit en katakana et pas en idéogramme. Voilà. Donc j'entre en licence. Et là, les choses sérieuses commencent, parce que là, il y a tous les idéogrammes qui arrivent. Et, stupéfaction, je me prends de passion pour les idéogrammes. Ça, c'était vraiment pas prévu. J'adore ça. Et je les apprends donc à une vitesse record. Il faut entre 2000 et même 3000 kanji pour pouvoir lire un journal et être considéré comme lettré. Et il y en a bien plus. Voilà. Alors, je ne sais pas combien, moi, j'en ai assimilé. Mais en tout cas, je rentre dans la culture japonaise par les kanji. Et ça, ça va être une chance. Parce que, du coup, j'apprends aussi à écrire et à lire. Ce qui n'était pas évident, ce qui n'était pas gagné. Par contre, je sais très mal parler, encore. Et quand on arrive en 92 ou 93, je passe ma maîtrise. Et là, ma nouvelle obsession, c'est de partir au Japon. De repartir au Japon. Voilà. Et je pars à Tokyo sous les lamentations de ma mère qui me dit « Mais tu vas jamais t'adapter à la société japonaise avec ton caractère. » Parce qu'elle connaît ça mieux que moi. Mais mon père, qui a un autre avis, lui dit « Écoute, de toute façon, si tu as envie d'aller, vas-y. » Et effectivement, ça paraît important parce que c'est pas dans un but professionnel, mais dans un but vraiment de quête de moi-même. Tout de suite, je commence à travailler parce qu'évidemment, je veux être indépendante financièrement de mes parents. Et alors, il faut bien dire que le Japon, c'est le paradis des petits boulots. Ce qui explique d'ailleurs que tout le monde bosse. Le premier boulot que je trouve, c'est hôtesse. Alors attention, il ne faut pas lever les yeux au ciel trop vite. Hôtesse, c'est les descendants de la geisha. Et donc, je vais pendant 3 mois parler en japonais avec en plus un nombre de japonais divers et variés comme on n'a jamais vu. Je passe du salaryman de base au PDG, au yakuza, au sumo, au VIP room qui est en haut où des fois j'ai accès. Alors là, c'est complètement une autre ambiance. On a des célébrités de la télé qui viennent et tout. Donc, c'est pas un endroit où je se choper des filles. Tu vois, c'est beaucoup plus que ça, les clubs d'hôtesses. Et donc, grâce à ça, je progresse en japonais à une manière fulgurante. En tout cas, pour l'oral.
Tu as l'occasion de rencontrer des gens très divers. La notion de registre de langue paraît très importante en japonais. Est-ce que l'apprentissage de ces registres, c'était là, à ce moment-là, que tu as pu mieux les appréhender ?
Alors, ma mère, il faut bien savoir qu'elle a un japonais en termes de politesse et de raffinement qui est très, très admiré. Elle ne parle pas du tout un japonais aussi raffiné que ma mère. Mais j'ai eu une certaine facilité à intégrer la notion de keigo. Et les clients de ce club aussi me corrigeaient. Et ils essayaient de m'apprendre. Par exemple, on a le verbe ikimasu qui est aller. Donc c'est iku et irashaimasu. Déjà, j'ai donné 3 déclinaisons d'un même verbe qui veut dire la même chose, mais qui ne va pas s'employer de la même manière selon qu'on s'adresse à un copain ou dans un cadre professionnel. Ça sera un seul idéogramme, pour l'exemple que j'ai donné là. La forme honorifique de Keigo n'a rien à voir avec l'idéogramme. C'est dans le parler, l'honorifique. Donc j'avais vraiment une relation très amicale avec les gens qui venaient. Alors, ça me dit client, ça peut peut-être choquer, mais bon, c'était quand même des clients. Et donc du coup, en même temps, j'ai revu à la hausse les Japonais, les hommes. Disons que ça, c'est aussi passé par cet échange en fait, de langues qui m'apprennent, que ça leur fasse plaisir, évidemment, que je fasse des efforts pour apprendre la langue japonaise, ce qui n'est pas le cas de tout le monde, surtout des étrangers. Alors, je suis considérée comme une étrangère quand même. Ça étonne beaucoup de gens. Le Japon a toujours clamé, en fait, l'identité unique. D'ailleurs, ça a impacté plein de populations des îles. Il faut rappeler que le Japon est un archipel avec des milliers d'îles et que sur ces îles, ils ont développé forcément des identités à part de celle de l'île principale qui est Honshu. Et il y a des dialectes japonais qui sont complètement différents de celui qu'on parle à Tokyo, et voilà, sur l'île principale. Okinawa en fait partie, Hokkaido aussi, avec les peuples autochtones qu'on appelle Ainu. Eux, c'est carrément, ils parlent une langue qui s'appelle le Ainu. Et ils n'ont pas échappé à la politique d'assimilation pour que leur langue soit définitivement oubliée, remplacée. Okinawa, c'est pareil. Et même dans l'archipel d'Okinawa, il y a, sur différentes îles, on trouve différents dialectes. C'est complètement incroyable. Et donc, du coup, tout ça pour dire que la politique d'uniformisation du Japon a touché aussi les half. Alors, nous, on nous appelait les half, c'est-à-dire les moitiés. Donc, le terme en anglais qui veut dire moitié, donc prononcé en japonais, donc encore un mot qui s'écrit en katakana, hein, half. Donc, on était un peu ce genre hybride. En général, il y avait toujours une sorte d'admiration aussi, parce qu'il y avait beaucoup de half qui étaient modèles ou vedettes à la télé, tout ça, mais... Bon, dans la vie normale, c'était plus compliqué que ça. C'était plus... on est gaijin. Gaijin, ça veut dire étranger. L'idéogramme de gai, c'est soto, donc l'extérieur. Et jin, qui est le hito, qui est la personne, donc la personne de l'extérieur. Quand on l'écrit correctement en littéraire, on dit gai kokujin. Donc koku, le pays, kuni. Alors, je dis Koku Kuni parce que quand on voit un idéogramme, il a 2 lectures au minimum qui donne un aperçu de la complication de l'écriture et de la lecture du japonais. Je pense même plus compliqué quelque part que le chinois parce qu'ils ont incorporé donc pour chaque idéogramme différentes lectures pour un seul signe selon qu'il est associé avec d'autres caractères, etc. Donc, Gaikokujin, c'est devenu Gaijin. Moi, d'aspect extérieur, apparemment, je ne ressens pas une japonaise. Et d'attitude non plus. Bon, on me considère comme une étrangère. Mais du coup, j'en joue. Puisque donc tous les écarts de langage que je pourrais avoir sont acceptés. Et donc, je n'ai pas à m'encombrer de toutes ces formules honorifiques qui, quelquefois, sont vraiment contraignantes. Donc, du coup, quand j'arrive au Japon, et quand, voilà, j'ai déjà une vingtaine d'années, c'est pas maintenant, effectivement, comme dit ma mère, que je vais commencer à essayer de devenir une bonne japonaise. Je suis toujours en train, quand même, de me demander, pas exactement si je suis française ou japonaise, je vois bien que je suis les deux. Mais des fois, ça m'emmerde d'être traitée comme l'un ou l'autre. J'aime pas ça. Je dis, c'est pas moi. Alors, est-ce que c'est moi qui donne cette image-là ? Je me pose ces questions-là. Je dis, qu'est-ce que je devrais faire pour qu'on arrête de me prendre pour une Française complète ou une Japonaise complète ? Enfin, je vois que je suis complètement quelque chose d'autre, mais je n'arrive pas à savoir quoi, etc. C'est quand je découvre le Sahara que je vais vraiment explorer cette troisième identité qui va n'en former qu'une, qui va être moi. Donc, ça va mettre beaucoup de temps. Ce processus n'aurait pas pu se faire sans ce passage au Japon.
Je t'ai entendu dire un jour que depuis que tu parlais japonais, tu t'entendais beaucoup mieux avec ta mère. Est-ce que tu penses qu'en partageant sa langue, tu as partagé quand même sa vision du monde et tu as mieux compris comment elle pouvait appréhender les choses ?
C'était flagrant. D'ailleurs, ça a commencé, ça, ce processus-là, enfin, de parler en japonais avec ma mère, ce qui n'était jamais arrivé. Ça a été très, très lent. Hein. Je pense que ça a commencé après les années 2000, quoi. Quand ma mère aussi revient vivre au Japon. Alors, ma mère aussi a une vie très compliquée, un peu déchirée entre les deux continents, même si elle est japonaise à 100%, comme quoi ça ne veut rien dire. Hein. Et je vais la voir donc, quand je peux, parce que j'essaie toujours après de garder le contact avec le Japon. Je deviens extrêmement attachée au Japon. Le Japon est un terrain d'expérimentation, y compris pour moi-même, et vis-à-vis de la société japonaise et du peuple japonais en général, et de ma mère, donc. Alors, ma mère aussi, qui est un point d'interrogation pendant longtemps, je la redécouvre de manière différente, à travers une langue qu'on a finalement en commun, qui est le japonais, et qui sort naturellement, voilà. Les rapports s'adoucissent avec le japonais. Il n'y a plus ce rapport de force, déjà. Je suis plus complexée. Voilà. Et elle me corrige gentiment quand il le faut, tu vois, mais jamais de manière autoritaire et tout. Elle a l'air très heureuse que j'ai appris le japonais. Ça lui fait extrêmement plaisir que je lui parle japonais, ça se voit, enfin, je le sens. Et moi, ce que je découvre, c'est ma mère, évidemment, avec tout ce qu'elle a, elle a pu souffrir, tu vois. En étant japonaise à Paris, tout ça, tu vois, je commence à le comprendre. Son esprit aussi... individualiste dans cette société japonaise, qu'elle a choisi de fuir, la rupture que ça a provoqué aussi avec sa famille, tout ça, je comprends beaucoup mieux qu'avant. Bon, aussi, c'est parce que aussi, je suis devenue une adulte, mais... Et je comprends surtout, en fait, l'éducation qu'elle a voulu me donner. Donc, oui, une fois que j'ai digéré tout ça, que je l'ai compris, forcément, les rapports vont mieux. Et donc, l'apprentissage d'une langue... C'est tout le contexte, toute la culture, l'éducation, la société, et puis jusqu'à en revenir à ta propre famille.
Quand tu switches, est-ce que cette façon d'être au monde, elle s'accompagne d'une posture ? Et par exemple, est-ce que ta voix change quand tu parles japonais ?
Ah oui, bah, il paraît que ma voix, elle prend au moins 3 octaves en aigu, donc je sais pas pourquoi... Alors, j'avais un ami photographe, un ami italien. Donc, on se connaît à Paris, on voyage ensemble au Japon pour un reportage. Et là, soudainement, il m'entend parler au téléphone la première fois avec une voix. Et il appelle ça ma voix Candy Candy. C'est te dire, quoi. C'est un peu exagéré, mais c'est vrai que souvent, alors, plus j'ai des demandes à faire, j'appuie bien sur les aigus en japonais. Je prends un peu ma voix de dessin animé et ça marche. Ma mère est pas comme ça, hein. Donc c'est pas typiquement japonais, on peut pas dire ça. Mais je crois que c'est un côté de ma personnalité qui ressort, quoi. C'est peut-être un peu de mon enfance des années 80 quand je chantais les tubes de la pop japonaise de l'époque. Mon désir en fait de partir au Japon après l'université, ça a été la découverte d'un livre qui s'appelle La mort volontaire, qui est écrit par un Français qui s'appelle Maurice Pinguet, historien. Quand j'ai lu ce livre, mon sang a bouillonné, littéralement. Que pour moi, c'est ça, en fait, la réponse à tous mes questionnements. C'est juste le sang. Pour moi, c'est l'ADN. Et moi, tout ce que je sais, c'est que j'ai un ADN japonais très fort et qui me fait remonter à très, très loin.
Alors, il y a un autre moment où ton sang a bouillonné, quand même, c'est quand tu as découvert le Sahara et la culture Touareg. Et ce grand voyage qu'est la caravane de sel, tu l'as fait à plusieurs occasions. Tu relates toute cette aventure dans un livre qui s'appelle La Caravanière, que tu as écrit dans les deux langues. Est-ce que tu peux nous parler de ce processus d'écriture dans deux langues différentes? Est-ce que c'est deux écritures, une traduction? Comment ça s'est passé?
J'ai écrit donc un premier livre, donc qui était mon tout premier livre, en japonais. Alors ça, ça a un peu stupéfait tout le monde, parce que, comme je l'ai dit, le japonais n'est pas ma langue natale, dans ce sens-là. Mais à partir du moment où j'ai découvert le Sahara et les Touaregs, j'ai commencé à construire un pont entre le Japon et le Sahara. Et donc, dans ce prolongement, il me semblait logique d'écrire en premier ce livre en japonais, parce que je voulais m'adresser en premier à des Japonais. Voilà. Et surtout, c'est parce que, comme c'est un récit très personnel, d'une tranche de ma vie, j'avais pas envie d'être traduite. Déjà, la démarche, elle est partie de là. J'ai dit, je me retrouve sur les manches. On est en plein Covid, ça m'aide. Je ne peux pas bouger nulle part. Je suis coincée à Tokyo. Je vais écrire mon livre en japonais. Ma mère me rejoint. Et là, on va passer 4 mois. Et moi, donc, je suis complètement dans mon manuscrit. Et je lui imprime chaque chapitre et elle les corrige. Et c'est un des moments les plus merveilleux que j'ai passé avec ma maman. Parce qu'elle découvre en même temps des histoires dont elle n'a jamais entendu parler. Donc c'est très très drôle, je l'entends de l'autre côté. On est séparés par une cloison en papier. Et des fois je l'entends ou éclater de rire ou pousser des grands soupirs ou des exclamations. Mais comment c'est pas possible? Pourquoi tu as fait ça? Parce que bon, il y avait pas mal de voyages dangereux que j'avais fait sans l'informer, etc. Et donc ça crée beaucoup d'intimité forcément. Et c'était un travail en commun et... Et voilà. Alors après, donc une fois que le livre est publié en japonais, je me retrouve forcément avec l'envie de l'écrire en français. Et pour les mêmes raisons, je me dis c'est carrément inimaginable de me faire traduire dans ma propre langue, quoi. Je me mets à écrire le livre en français moi-même. On se retrouve donc avec une même histoire qui est la mienne. Hein. Je ne l'ai pas changée. Sauf qu'elle est écrite complètement différemment parce que je suis incapable d'écrire de la même manière en japonais et en français. Alors, quelque part, l'écriture en japonais est beaucoup plus simple. Forcément, j'ai moins de vocabulaire. Comme je l'ai dit, je parle et écris un japonais très imparfait par rapport à un japonais, je pense. Mais en même temps, je fais confiance à ma mère. Elle me dit, non, c'est bien, tu continues comme ça. Donc, j'ai dit, OK. Dans mon japonais simple, on va dire. Par contre, le français... Alors, j'ai jamais eu une écriture compliquée, mais forcément, va être un peu plus enrichie. Voilà.
Est-ce que tu veux nous lire un extrait de La Caravanière?
Bon, je le lis d'abord en français.
Ouais.
Je suis avec les anciens combattants du front de libération de l'Aïr et de l'Azawar. Et donc, c'est ces anciens combattants qui vont m'apprendre le tamashek de manière tout à fait militaire, avec beaucoup de rigueur. Donc, je lis. Tamashek. Je restais seule avec une dizaine de combattants. Farouche au début, ils ne m'adressaient que rarement la parole et discutaient seulement entre eux en tamashek. Je pris mon mal en patience, écrivant dans mon carnet tous les mots que j'entendais. J'aimais les intonations douces de cette langue qui ne ressemblait à aucune autre. À commencer par les salutations qui se déroulaient comme une longue litanie. Oiwan, relras, maduigan, relras. Tagodem, Al-Khalras, Matahalekom, Al-Khalras, Matole, Al-Khalras. Ces salutations étaient accompagnées d'étranges salamalek qui consistaient à faire glisser plusieurs fois sa paume dans la main de son interlocuteur d'un geste vif et régulier, tout en changeant de formule de politesse le plus vite possible et sans broncher. La durée de ces échanges dépendait de la familiarité avec la personne, de la banalité ou non de la rencontre, et se terminait par un léger serrement de main et un claquement de paume. Autant dire que peu d'étrangers se risquaient à cet exercice périlleux, se contentant d'une poignée de main. Pour ma part, dès lors que je me mis à essayer, chaque combattant vint me faire répéter plusieurs fois par jour ces formules dont je ne connaissais même pas le sens. À part Al-Khelras, qui voulait dire « la paix seulement », le reste ne pouvait se traduire que par un banal « ça va » en français. Tamashek go oboeru. プレヤード・ワヤージュの連中はとても近寄りがたい雰囲気だった。ほとんど挨拶もせずに、ぎょしがたい男たちに見えた。それに全くフランス語を話せなかった。だが言葉が通じなくても、毎日少しずつ彼らは何かしらの仕草で気を合ってくれ、お茶を与えくれ、ご飯を作ったり買い物に付き合ったりしてくれた。彼らとコミュニケーションを取るために私は一生懸命タマシェク語を覚えた。タマシェク語の響きは柔らかくて好きだが、まず挨拶は発音が難しく長い。こんにちは、お元気ですかのような簡単な挨拶はそもそもアフリカでは存在しないが、タマシェク語もやたらに長いのである。オイワンアルヘルラス、マットレアルヘルラス、タゴデムアルヘルラス、マイガンアルヘルラス、マタハレクアムマルヘルラス、マニエサメッドなどとすごい数の言葉が流れるように続き、それと同時に手を何回も滑り合わせる。アルヘルラスは平和だけという意味だが、他の言葉はフランス語では説明できないと言われた。
Tu finis cet extrait en comparant les salutations tamashek avec le bon vieux sava très sec du français. Dans l'extrait japonais, tu restes sur la comparaison avec le français ou tu pars sur une comparaison avec la salutation japonaise?
Ça c'est vraiment drôle parce que j'ai jamais comparé les deux encore, tu sais. Alors attends. Dans cet extrait, je dis alors. Donc, je finis avec Al-Khelras. Non, en fait, je ne m'aventure pas avec le japonais. Je dis juste, alors je formule ça autrement. Je dis Al-Khelras, ça peut se traduire par la paix seulement. Mais les autres mots des salutations ne peuvent pas s'expliquer. Il n'y a pas d'explication en français. Il n'y a pas de traduction en français. Tu vois, je compare le tamashek et le français. Ce qui veut dire que s'il n'y en a pas en français, il n'y en a forcément pas en japonais. C'est ce qui est sous-entendu. Tu vois, par exemple, le japonais, là où il est très pauvre, par exemple, si je compare avec le tamashek, les formules de politesse qu'on échange pour se saluer. En japonais, je crois que, enfin, tu dis bonjour, c'est tout, tu dis même pas ça va. Hein. Donc c'est assez raide, en fait. Par contre, tu t'inclines, tu vois, tout est dans l'inclinaison, alors extrêmement importante, presque en angle droit, hein, normalement. Et plus tu restes longtemps incliné, ça aussi, ça veut dire quelque chose. Ma grand-mère, je voyais quand elle recevait des invités dans son petit vestibule à l'entrée, au moment qu'ils remettent leurs chaussures pour les raccompagner, elle était à genoux, donc en seiza, ce qu'on appelle, assise sur les genoux à l'entrée donc, de la maison. Et elle va se baisser comme ça, jusqu'à ce que presque les invités ferment la porte, quoi. Donc c'est ça les manières de salutation qui passent pas forcément par les mots, mais aussi beaucoup par le corps.
Comment compte-t-on en japonais ?
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Tu ne comptes pas pareil si tu comptes un chat ou une feuille de papier ou une voiture. C'est trop la galère. Je donne un exemple. Un chat, 1匹. Une voiture, Ichidai, et une feuille, Ichimai. J'ai juste dit un.
Je me demandais, est-ce que tu as pu t'appuyer sur le japonais ou le français dans l'apprentissage du tamashek ?
Forcément que l'apprentissage du japonais a aidé à l'apprentissage du tamashek et aidera probablement à l'apprentissage d'une autre langue si l'occasion se présente. Mais le tamashek, c'est très étrange. Alors, je le parle hyper mal. Hein. J'ai appris le tamashek avec les caravaniers. Donc, du coup, je suis assez douée pour le matériel des caravanes, les cordes. En fait, un vocabulaire assez spécialisé. Les Touaregs, c'est incroyable. Ils ont 50 mots pour désigner un chameau. Je connais peut-être pas les 50, mais j'en connais une dizaine de mots pour dire chameau.
Mais les Touaregs ne sont pas tous caravaniers, loin de là. Du coup, quand je me retrouve avec les Touaregs des villes, là, ils parlent d'autre chose et je capte que dalle, quoi. Les Touaregs, c'est très drôle. Ils comprennent tous français à un niveau, tu vois, bon. Mais ils ne veulent pas le parler. Alors, ils sont comme moi au début avec ma mère, quoi. C'est une histoire de fierté. Ils sont incroyables. Et moi, ça m'est arrivé. Alors, au début, je pensais vraiment qu'ils ne parlaient pas français. Donc, du coup, je me suis fait chier à apprendre le tamashek. On peut dire ça aussi comme ça, parce que vraiment, je me suis dit, je n'ai pas le choix et tout. Et c'était très bien, parce que... Donc, les caravaniers, ça, c'est sûr, eux, ils ne parlent pas. Les Touaregs des villes, ce n'est pas pareil. Et à un certain moment, au bout de, je ne sais pas, plusieurs mois passés avec des Touaregs comme ça, c'est là que je m'aperçois qu'en fait, ils comprennent tout en français. Et qu'ils le parlent, enfin mieux que moi en tamashek en tout cas. Et j'ai dit, mais pourquoi tu ne m'as pas parlé avant en français? J'ai dit, non, tu dois parler tamashek. Tu es une Touareg, tu dois parler tamashek. Et ça, et en fait, les Touaregs, ils ont, en fait, bon, c'est compliqué, le mot Touareg, ça a été véhiculé par les Arabes, apparemment, un mot inventé. Mais eux-mêmes ne s'appellent pas Touareg, à la base, ils s'appellent de diverses manières, dont Kel Tamashek, qui veut dire les gens qui parlent Tamashek. Et ça, c'est magnifique. Et c'est pour ça que moi, voilà, ils voulaient que j'apprenne le Tamashek le plus rapidement possible, et aussi parce qu'ils n'aiment pas parler le français, parce que c'est la langue du colonisateur. Très dur avec le tamashek, c'est que en fait, donc j'apprends le tamashek plus ou moins donc au Niger. Ensuite, je me rends au Mali, au nord du Mali. Tout ça, c'est le Sahara. Là où évidemment il y a des Touaregs. Et là, je parle en tamashek et personne ne comprend. Et là, c'est le choc, quoi. Je dis, mais c'est pas possible, quoi. Ils font exprès. Même si j'ai un accent, faut quand même pas exagérer et tout. Et en fait, ils ont d'autres dialectes. Et en plus, ils sont très, très fiers, très orgueilleux. Ils n'aiment pas non plus, même dans le cas d'une étrangère qui, quand même, fait l'effort de parler en tamashek. Alors après, on entre là, par là, justement, par la langue, avec tous les conflits entre confédérations, Touaregs, tu vois. C'est extrêmement compliqué. Et je l'ai senti déjà par la langue. Et après, je me retrouve en Algérie, dans le sud algérien, où il y a encore là aussi des Touaregs. Et c'est pareil, c'est pas le même. Et en fait, toutes ces langues Touareg ont été... Donc, celle du Niger, il y a beaucoup... Elle a été influencée beaucoup par le Sud, c'est-à-dire par des langues comme le Hausa, etc. Alors, la langue aussi de Nord-Mali, elle a été aussi influencée, mais alors beaucoup par la proximité de la Mauritanie et tout. Donc là, on est plus dans des langues, tu vois, un peu arabes. Mais ce n'est pas du tout de l'arabe, attention. Hein. Et... Alors là, évidemment, l'Algérie, celle-là, c'est directement par le Darja, quoi, l'arabe algérien, et la proximité de la Libye, tu vois. Et tout ça va forger la langue tamashek du terroir, au point que, vraiment, il y a des mots qui ne sont pas pareils. Vraiment, on a du mal à me comprendre. Et moi, j'ai surtout du mal à les comprendre. Et je suis trop vénère, quoi. Je me dis, mais c'est ça, je ne vais jamais y arriver. Ça a beaucoup contribué à arrêter que je parle. J'avais vraiment commencé à étudier le tamashek. Ça m'a découragée. Je me suis dit, c'est pas possible. Parce que j'allais et venais entre les trois territoires. Je savais plus. Donc finalement, je suis restée au fidèle au tamashek nigérien. À tel point qu'elle m'appelait la nigérienne.
Alors juste pour resituer, est-ce que justement tu pourrais expliquer ce qu'est le tamashek?
Donc le tamashek est une langue berbère très ancienne avec un alphabet qui s'appelle le tifinagh. Et qui est commun à tous les berbères, donc d'Afrique du Nord. Mais le tamashek se distingue évidemment des autres langues berbères. Et le tifinagh est assez peu utilisé, même s'il est connu surtout des femmes, principalement, puisque c'est elles qui sont chargées de véhiculer cet alphabet. Il est peu utilisé parce que tout se véhicule oralement. C'est un peuple de nomades. Par contre, on peut trouver encore maintenant sur les rochers, ou là où il y a des gravures et des peintures rupestres, on peut trouver des inscriptions en tifinagh qui sont très anciennes. Mais les Touaregs n'écrivent pas de livres en tifinagh. S'il en existe maintenant, c'est très récent. Tu vois, donc c'est encore très intéressant parce qu'ils ont un alphabet, mais ils l'utilisent par exemple sur le sable. Mais ils savent l'écrire encore maintenant, tu vois. Donc ça a une utilité. mais pas du tout comme chez nous, où tout de suite on pense écriture, on pense livre, laisser des écrits, alors que là on se retrouve dans une civilisation du désert, où il n'y a pas de maison, il n'y a pas de matériel en fait, où c'est juste des tentes, les harnachements de chameaux, quelques vêtements d'apparat et surtout le troupeau avec lequel on va transhumer, avec lequel on va nomadiser. Et c'est très beau d'ailleurs ces anciennes photos de femmes qui enseignent à leurs enfants, les anciens aussi, les marabouts peuvent aussi enseigner le tifinagh, mais c'est sur le sable. C'est magnifique. Vraiment tout. Et puis après, c'est effacé par le vent. Et ils ont une mémoire. C'est ça qui a forgé la force de mémorisation des Touaregs, qui est hallucinante, je trouve.
Est-ce que, juste, tu peux nous dire peut-être des mots qu'on doit absolument connaître en japonais quand on va au Japon et éventuellement en tamashek si on va au Niger?
Au Japon, kudasai. À la fin de chaque phrase, il faut mettre kudasai, s'il vous plaît. On est dans un pays où la politesse est de règle. Arigato gozaimasu, forcément, hein, qui est le merci. Alors le merci aussi, il est intéressant parce que ce qui est chez nous merci ou thank you, en japonais, eh bien, tu as le arigato, qui est vraiment familier, que tu n'utiliseras jamais normalement avec une personne que tu ne connais pas. Alors il faut rajouter au minimum gozaimasu après. Donc, ça fait arigato gozaimasu. Et quand tu veux être encore plus poli, tu mets domo arigato gozaimasu. Donc, tu vois, pour le merci, tu as trois formes. Alors, tamashek, c'est très, très drôle. Parce que on n'emploie pratiquement pas le mot merci. En fait, j'ai eu une fois l'explication, ça m'a suffi. En gros, merci, c'est un terme hyper fort, tanemert, que tu utilises vraiment, mais style presque quand on t'a sauvé la vie, quoi. Et donc, du coup, quand on tend un verre de thé, non, tu dis pas merci. Alors, ce décalage culturel énorme, pour l'expliquer à des Japonais, donc, à un moment donné, j'ai amené beaucoup de Japonais dans le désert pour faire des initiations à la caravane. Ils demandent tout de suite comment on dit merci en tamashek. Ils vont le répéter 20-30 fois par jour. Et les Touaregs, maintenant, ils sont habitués. Hein. Ils font plus attention, tu vois. Mais c'est vraiment... Moi, quand j'accompagne un voyage, ça me fait toujours mourir de rire, quoi. C'est les antipodes. Mais c'est génial. Je trouve ça génial. Alors, à bientôt en japonais. C'est compliqué parce que c'est tout de suite familier. Matane. Et c'est un truc vraiment entre amis, tu vas jamais dire ça pareil à quelqu'un que tu connais pas. Mais par contre, en tamashek, on dit ou hartufat, ce qui veut dire à demain. Même si tu sais que tu vas jamais voir la personne le lendemain, tu dis à demain. C'est une manière de dire que je veux te revoir aussi. Ou alors arasarat, qui est plus proche du à bientôt français. Au revoir, intéressant. Parce que le au revoir, il utilise un peu la formule Inch'Allah. J'ai dit Inch'Allah pour dire au revoir en tamashek, ce qui sonne toujours pour moi assez dramatique parce que c'est on se voit adieu, quoi, tu vois, c'est un peu adieu. C'est un côté pas léger du tout. Par contre, ce qui est étonnant pour le japonais, c'est le fameux sayonara aussi est utilisé très peu. Voilà. Il est utilisé que dans un contexte vraiment d'éloignement pour plusieurs mois. Tu vois, c'est un mot lourd, hein. On n'est pas du tout léger, au revoir. Non, c'est pas au revoir. C'est presque adieu. Je sais pas, le adieu, on l'utilise de moins en moins, j'ai l'impression, en français. Adieu, c'est vraiment comme une rupture. Sayonara, c'est pas une rupture, mais c'est vraiment quelque chose de... Tu dis pas ça à quelqu'un que tu vas revoir la semaine d'après, quoi. Voilà. On incline la tête. On dit merci.
Est-ce que tu peux te présenter, Alissa, en japonais et en tamashek?
Donc, je m'appelle Alissa. Atashi wa Alissa. Nako ici ni Alissa.
Un très grand merci à Alissa pour son témoignage. Vous pouvez lire son récit palpitant « La caravanière » suivi de « Sahara rouge » en français ou en japonais pour mettre un pied littéraire à ses côtés dans le désert. On se retrouve le mois prochain. Je m'incline et je vous dis à demain.